tous. Comment allez-vous ce matin ? Bien ? Vous avez le droit de dire ça va pas. Ce serait une occasion pour prier pour vous, pour que vous repartiez d'une manière différente que celle que vous êtes venu. Alors, nous sommes toujours dans le livre des juges. Je rappelle que c'est un livre qui parle de l'échec, de la misère, mais aussi de la miséricorde de Dieu. Dans ce livre, on trouve également un cycle déjà évoqué dans les messages précédents. Je ne sais pas, j'espère que vous vous souvenez déjà des juges que nous avons vus. Donc, les messages précédents où les mêmes faits se reproduisent, c'est-à-dire cycle de repos, de ruine, de rechute, de repentir, puis de restauration. Alors ce matin, nous allons faire connaissance avec un de ces juges du nom de Jephté. Je pense que vous connaissez bien le personnage. Non ? Ça ne vous dit rien ? Bon, moi non plus. Moi au départ, ça ne me disait pas grand-chose. Et j'ai dû aller faire des recherches pour savoir qui était ce personnage. Et si nous avons son histoire entre nos mains ce matin, c'est parce que le Seigneur a voulu nous transmettre et nous enseigner quelque chose. Donc, pour commencer, nous allons lire au chapitre 11. Donc, nous allons dans le livre des juges au chapitre 11. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, je me suis aventuré à faire un PowerPoint. Vous voyez bien que je suis trop jeune pour utiliser ce genre d'outil informatique. Donc, j'ai dû faire appel à quelqu'un d'une personne jeune, belle et dynamique que le Seigneur a placée à mes côtés. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, après, comment ça fonctionne ? Bon. Encore ? Ah, d'accord. Donc, c'est vous qui pilotez là-bas, non ? Bon, oui, alors ça, c'est Jephté. Hein. Là, vous avez reconnu sa photo. Donc, pour commencer, lisons dans chapitre 11 du livre des juges, versets 1 et 3. Jephté, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils, puis, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté et il faisait avec lui des coups de main. Bon, ça marche toujours pas. Donc, en 20 minutes, je n'ai pas assez de temps pour traiter ce sujet. Ce qui veut dire que nous sommes ici au moins pour 3 bonnes heures. Tout va très bien ? Oui ? Ça va pour vous ? OK. Le père de Jephté, donc, Jephté était l'enfant donc, d'une prostituée que son père n'a pas épousé. Ben voyons. Il a grandi à Mispa, en Galaad, et son père s'appelait lui-même Galaad. Donc ça veut dire que c'était déjà un personnage qui, au sein de la société de l'époque, avait une place. Et le père de Jephté, donc après, a une épouse, des enfants, demi-frères de Jephté, et ses demi-frères, en grandissant, ont compris que Jephté était le fils aîné, et que c'est lui qui allait empocher l'héritage. Donc, ils ont organisé la suite, c'est-à-dire pour que Jephté soit expulsé du pays. Jephté s'enfuit, et il trouve refuge au pays de Tob, c'est-à-dire en Syrie. Et là, il devient... Ben, il fallait bien se nourrir, hein. Il fallait remplir le frigo. Donc, il devient le chef d'une bande de brigands. Et en même temps, il est reconnu comme un vaillant héros, un vaillant combattant au passé certes tragique et douloureux. Puis vient le temps où le peuple d'Israël n'avait pas de chef pour les conduire à la guerre, et là ils se souviennent d'un certain Jephté. Il n'avait pas d'ancêtre glorieux, et son style de vie n'était pas très exemplaire, mais il possédait des qualités nécessaires pour être un chef de guerre. Alors les anciens de Galaad ont, si j'ose dire, ont avalé leur chapeau, ont parcouru environ 100 km pour se rendre à Tob et recruter Jephté pour faire la guerre aux Ammonites. Et face à la demande des anciens, on peut imaginer la surprise, l'amertume de Jephté qui leur dit « Mais pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans le pétrin ou dans la détresse, c'est comme vous voulez ?» Puis les anciens lui proposèrent ce que personne d'autre en Israël n'avait voulu accepter. Ils lui dirent, au 11 verset 8, « Mais c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Vous imaginez ce que Jephté était en train d'entendre. Il ne pouvait pas en croire ses oreilles, ou bien il voulait à nouveau entendre leur demande. Mais il ne s'était pas trompé. Il avait bien entendu et compris. Lui, Jephté, l'enfant bâtard, banni, rejeté de Galaad, d'une mère prostituée, revint à Mitzpah pour être le chef du peuple et de l'armée. C'était en quelque sorte sa revanche sur la vie. Car au verset 9, il pose la condition. « Si je remporte la victoire, je resterai votre chef. » Ah ! Et qui l'eût cru ? Il n'y a aucun doute que Jephté était un combattant doué, capable de mener à bien une expédition punitive. Pas du tout. Il avait appris à manier l'épée, la lance et tout ce qu'il fallait avec. Contrairement à ce que nous pourrions penser, ce n'était pas non plus un vat en guerre. Parce qu'au verset 12 à 28, nous voyons que Jephté préfère régler le problème avec les Ammonites, ennemis d'Israël, par la discussion, par voie diplomatique. Et la première action qu'entreprend Jephté est d'envoyer une délégation auprès du roi d'Ammon pour demander les raisons de ses attaques contre Israël. Et la réponse du roi fut que les Ammonites voulaient récupérer la terre qui leur a été prise lors de la sortie d'Égypte du peuple hébreu 300 ans plus tôt. Et la réponse de Jephté est argumentée au chapitre 11, toujours du verset 15 à 27, pour montrer qu'Israël avait droit à cette terre. Et quand je lis toute cette historique, je suppose que Jephté, enfant, a fréquenté le CBJ pour connaître l'histoire du peuple hébreu. D'abord, Israël avait pris la terre non pas aux Ammonites, mais aux Amoréens. Et de plus, c'était Dieu qui leur avait donné cette terre. La discussion diplomatique a été un échec et la guerre entre Israël et les Ammonites devint inévitable. Et là, maintenant, je vous invite à lire la suite. On est toujours dans le chapitre 11 et on va lire la suite du verset 29 à 40. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mispé de Galaad, et de Mispé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison en devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephté marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusque vers Minit, c'est des noms qui ne sont pas forcément auvergnats, espace qui renfermait 20 000 et jusqu'à Abel-Kéramine, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mizpa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon, » et elle dit à son père, « Que ceci soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pendant 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, le Galadite, 4 jours par année. Ce récit du livre des Juges est probablement l'un des plus scandaleux des textes bibliques. Celui qui heurte, choque notre raison et notre foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 12, cite Jephté comme héros de la foi. Alors, je ne sais pas comment vous recevez ce texte, vous, mais ça pose quand même certains problèmes. Et puis, au chapitre 11, là je reviens dans Juge, au verset 29, nous lisons « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté ». C'est-à-dire que Jephté a reçu l'onction de la part de Dieu pour aller combattre les ennemis d'Israël. Et ensuite, il fonça droit sur les Ammonites à travers le pays, et c'est alors, mais il fait, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il fait une bourde monumentale, pour ne pas dire un autre mot. Hein. C'est la plus grande erreur de sa vie, en prononçant ce vœu stupide que Dieu ne lui demandait pas du tout. Jephté fait cette promesse, au verset 30-31. Si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephté partit alors pour la bataille, et d'ailleurs ça a été un grand succès militaire, et avant la fin de la bataille, d'ailleurs il avait déjà détruit 20 villes Ammonites et le pays d'Ammon était soumis. Jephté avait fait la démonstration de sa valeur, donc il est bien un héros militaire, il est proclamé chef de Galaad. Ce moment aurait dû être le plus beau de sa vie de Jephté. Il était arrivé au sommet, et pourtant ce fut le pire jour de son existence. Après la victoire, il rentre chez lui, et la première personne qu'il voit, celle qu'il avait promis d'offrir en holocauste à Dieu, c'est la personne à laquelle il attachait le plus d'importance, c'est-à-dire sa propre fille, son unique enfant. L'heure de gloire se transforme en chagrin. Dans le récit, j'observe que cette jeune fille n'a pas de prénom. Elle sort en dansant devant son père et le cœur de Jephté se glace parce qu'il se souvient de la promesse faite à Dieu. Et maintenant, que va faire Jephté ? Va-t-il annuler son vœu ou réaliser sa promesse ? En un mot, va-t-il tuer sa fille, l'offrir en sacrifice, en holocauste, ce qui revient à dire un sacrifice humain ? Ah oui, nous sommes dans un moment glauque, là. Plus que glauque, même. Elle dit à son père, « Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Jephté la laissera libre pour 2 mois et au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Maintenant, encore une autre question. Jephté a-t-il vraiment tué sa fille puis brûlé? Il y a deux points de vue, selon lesquels Jephté a ou n'a pas offert sa fille en sacrifice humain. Selon la thèse du sacrifice humain, voilà ce qu'on peut dire. Ceci se déroule dans une époque tourmentée, dans laquelle la loi de Dieu n'est guère respectée. Ainsi, l'offrande d'un sacrifice humain pouvait ne pas être choquante. Et Jephté a grandi dans cet environnement païen qui pratiquait les sacrifices humains, offerts aux dieux. Et le mot traduit par « holocauste » implique une mise à mort de la victime. D'ailleurs, un peu plus loin au chapitre 12, verset 6, nous voyons Jephté qui a trucidé 42 000 Israélites dans une guerre civile. Donc, la mise à mort de sa propre fille n'était pas un acte hors de sa portée. Le verset 39 rapporte que Jephté accomplit sur sa fille le vœu qu'il avait fait. Et ce verset semble montrer qu'il l'offrit en sacrifice humain. L'affliction de Jephté indique qu'il allait effectivement l'offrir en sacrifice. Jusqu'au Moyen Âge, les interprètes et historiens ont compris que Jephté sacrifia sa fille et qu'elle était volontaire, la comparant ainsi au sacrifice volontaire de Jésus. Maintenant, voyons le deuxième point de vue. La thèse selon laquelle Jephté consacra sa fille au service du Seigneur. Les sacrifices humains étaient interdits dans la loi donnée par Dieu. D'ailleurs, Lévitique 18, verset 21, chapitre 20 et verset 2 à 5 nous le dit précisément. Et le mot traduit par « holocauste » peut être utilisé pour décrire une soumission totale, entière à Dieu. Ça veut dire que Jephté offrit sa fille à être au service du tabernacle et à rester vierge, donc plus de descendance pour la famille de Jephté. Elle pleura non pas sur sa mort, mais sur sa virginité, car chez les Israélites, on désirait avoir des enfants afin de perpétuer le nom et l'héritage de sa famille. La fille de Jephté ne fut pas la seule à respecter les vœux de ses parents. Plus tard, Samuel fit de même. 1 Samuel 1, verset 11. Sa mère fit le vœu de le donner à Dieu si celui-ci lui donnait un fils. Pourquoi aurait-elle fait le vœu de vouloir enfanter pour ensuite sacrifier son enfant par le feu? Ça n'avait pas de sens. Et je reconnais que l'auteur du livre des Juges ne nous aide pas. Et même pas du tout. Et là, je lui dis quand même, tu aurais pu faire un effort pour nous dire si ça c'était blanc et si ça c'était noir. Mais ce n'est pas comme ça. Dans les deux cas, Jephté perdait sa fille. Qu'il l'offre réellement en holocauste ou qu'il la consacre, et elle était consentante, cela signifiait qu'elle allait servir au tabernacle et que Jephté n'aurait pas de descendance. Et maintenant, pour nous aujourd'hui, en 2022, que pouvons-nous retirer de cette histoire ? J'aimerais retenir deux choses qui peuvent nous parler aujourd'hui. Le vœu de Jephté est la relation entre ce que nous pouvons être, quoi qu'ait été notre passé. Et puis, cette histoire nous avertit du danger, les valeurs du monde avec celles de Dieu. Et elle nous encourage à mieux connaître Dieu et ce qu'il aime, pour prendre les meilleures décisions. Et elle nous enseigne également sur le plan de notre relation, tension sur le vœu en lui-même. Car au verset 39, ce vœu qui nous interpelle, Jephté, juste avant la bataille, a rassemblé ses troupes et il est devant le champ de bataille. Soit il prend peur, ou alors il doute, et pour se rassurer, il fait un vœu. D'ailleurs, c'est la première fois depuis qu'il a été présenté dans la Bible que Jephté s'adresse directement à Dieu. Et par ce vœu, il cherche comme une sorte de garantie supplémentaire pour gagner. Pourtant, nous savons que l'Esprit de l'Éternel est sur lui et que la victoire est assurée. Alors Jephté est sur les bons rails pour réussir sa mission. Et cependant, il doute. Vais-je y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Que me réserve l'avenir? Comment me sortir de ce pétrin? Est-ce que Dieu est là quand ma vie est en jeu? Alors ce vœu tente de rajouter une garantie. Ça ressemble à une assurance vie. On peut aussi y voir un peu de perversité, de vouloir manipuler Dieu, de négocier avec lui, de lui tordre en quelque sorte le bras. Nous ne pouvons rien offrir à Dieu dont il ait besoin. Pas de troc avec lui, pas de marchandage. En fait, Dieu n'est pas un marchand de tapis, que je sache. Si Dieu nous bénit, c'est par amour et non par intérêt. La signification de la grâce divine, c'est justement que son amour est gratuit. Nous ne le méritons pas, nous ne le lâchons pas, on ne peut même pas l'acheter, mais on pourrait lui offrir toute la fortune que nous pourrions posséder. Attention, Dieu accepte avec plaisir néanmoins l'expression de notre amour, de notre service, de notre obéissance, mais comme un remerciement et pas comme un paiement ou un pot de vin. Sachant cela, pourquoi marchander avec Dieu? Par désir de garantie, mais aussi par désir de maîtriser l'avenir. Dominé par l'anxiété dans une situation qui met en jeu sa vie, Jephté ne choisit pas la confiance en un Dieu tout-puissant et bienveillant, mais au contraire, il essaie de faire entrer Dieu dans son jeu, d'en faire un atout, une sorte de joker, et en faisant ça, eh bien, il perd tout, sa fille et l'espoir d'une famille. Vous allez me dire, mais ça va rarement aussi loin pour nous. Mais quand nous choisissons de devenir les maîtres à la place de Dieu pour le faire entrer dans nos plans, ça peut être dangereux. Quand nous choisissons de traiter Dieu comme un outil, eh bien nous nous privons d'une relation vivante avec lui. Nous l'empêchons de nous transformer en profondeur, de nous libérer du mal. Dieu est un Dieu qui sauve, qui guérit encore aujourd'hui, qui délivre parfaitement et non pas un tyran. Alors, choisissons par la foi de le suivre sur ce chemin de vie. Quelques textes à propos des vœux. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Ecclésias 5, verset 1. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ou encore, toujours Ecclésias, chapitre 5, verset 5, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ah, combien parmi nous avons fait des vœux? Souvent le 1er janvier. Hein? Ou alors lors d'un anniversaire ou un truc comme ça. Ou alors quand on est un peu plus jeune, « Oh Seigneur, si tu me fais réussir à tel examen, je te promets de... » Et après, on a réussi l'examen, puis on a oublié ce qu'on a dit. Non? Non, c'est... Non, il n'y a que moi qui fonctionne comme ça, sûrement. Bon. Encore cette pensée sur Jephté. Deuxième enseignement pour nous. Je reviens à Juges 11, verset 1. Jephté le Galite était un vaillant guerrier, il était fils d'une prostituée. Il me semble que Jephté nous appelle à ne pas laisser notre conduite être guidée par les circonstances particulières de notre histoire. Que vous le vouliez ou non, nous avons tous une histoire. Chacun de nous a une histoire familiale, parfois douloureuse, ou des blessures profondes dues aux circonstances de sa vie. Alors, nous devons déposer nos souffrances entre les mains du Seigneur et ne pas nous laisser plus ou moins consciemment diriger par elles. Combien de chances de réussite donneriez-vous à un enfant qui est né d'une mère prostituée, rejeté par ses frères, qui grandit avec un sentiment de honte et de rejet, qui subit les insultes, connaît le mépris, l'exclusion sociale et qui finit par se retrouver dans la rue entouré de mauvaises personnes. Peu de chance, me diriez-vous. Peu de chance de réussir. Psychologues, sociologues, assistants sociaux, eux non plus ne seraient pas très optimistes face à un tel CV, face à un début de vie comme cela. La vie de Jephté était un échec dès le départ. Il ne semblait pas être destiné à une vie glorieuse. Jephté est ce que l'on appelle un écorché vif, mais Dieu a posé son regard sur lui. Il a changé la trajectoire de sa vie. Et le nom de Jephté signifie « il ouvre ». Et Dieu ouvre une nouvelle perspective pour celui que la vie avait condamné et enfermé dans un système d'exclusion et de rejet. Même si le regard des hommes n'est pas très valorisant à votre égard, Dieu pose, lui, un regard d'amour. Il repère en vous la qualité que personne ne perçoit. Seul lui, Dieu, le voit et le sait. Le regard des hommes vous abaisse. Il repère vos lacunes, met en lumière vos défauts. Celui de Dieu vous élève. Il repère et met en évidence vos qualités. Les hommes pratique l'exclusion. Jephté a été rejeté de ses frères. Dieu pratique l'insertion et la réhabilitation. Les hommes pratiquent l'humiliation. Dieu pratique la consolation. Les hommes rejettent et méprisent. Dieu recueille et valorise. Jephté a connu ce glorieux retournement de situation. Alléluia et gloire à Dieu pour ça. Il est capable encore aujourd'hui de faire la même chose dans ta vie. Donc sa vie a pris une nouvelle orientation parce que Dieu est allé le chercher là où il se trouvait, dans son éloignement avec ses blessures, dans sa mauvaise vie. Non, il n'y a pas de situation désespérée pour Dieu. Non, il n'y a pas d'exclusion définitive. Non. Celui que tout le monde avait rejeté deviendra un vaillant guerrier pour l'Éternel, un vrai leader pour le peuple de Dieu, un libérateur. D'ailleurs, la Bible nous donne d'autres exemples. Je pense à David, le petit berger, celui qu'on avait ignoré, que Dieu est allé chercher derrière le troupeau de moutons. Puis l'apôtre Paul, plus tard, celui qui persécutait les chrétiens. Eh bien, Dieu est venu le chercher alors qu'il cheminait vers Damas sur son cheval et il est tombé par terre lorsqu'il a fait cette rencontre avec Christ. Pour toi aussi, il y a une bonne nouvelle ce matin. Dieu peut changer la trajectoire de ta vie. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour te sauver, te racheter et t'assurer un avenir. Je voudrais conclure. Bon, vous avez échappé aux 3 heures. Le drame de la vie de Jephté peut nous enseigner sur notre propre vie. La vie de Jephté peut nous aider à sans cesse rechercher la connaissance de Dieu dans les écrits bibliques. Elle peut nous aider à voir que l'étude de la Bible n'est pas quelque chose de ringard ou de dépassé, mais au contraire, quelque chose d'indispensable à notre survie et qui nous aide à trouver des force. Elle peut nous aider à nous reposer la question suivante. Est-ce que je connais vraiment Dieu? Ne faisons pas de vœux inconséquents que nous ne pourrons pas tenir. Dieu n'a pas changé. Il est toujours prêt à reprendre notre vie en main si nous le laissons faire. Quelle que soit notre situation, aussi sombre que nous la voyons. Jephté, avec son passé familial lourd, a été choisi par Dieu. Et que dire de cette parole que le prophète Jérémie nous laisse au chapitre 31, verset 17 ? Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Prenons un temps de silence, s'il vous plaît.